Vous le saviez peut-être, ou vous l'avez remarqué, en tout cas, la messe de ce jour n'est pas la messe du 24e dimanche du temps ordinaire, mais c'est la messe officielle de l'Église de Saint-Louis, la messe de Saint-Louis que nous prenons pour honorer le saint patron, non seulement de cette Église, mais aussi de toute la nouvelle paroisse. Nous confions à Saint-Louis, qui est donc notre saint patron, et bien nous confions notre paroisse, tout ce que nous allons y faire. Nous demandons à Saint-Louis d'intercéder pour nous, de nous protéger aussi et de nous guider. Voilà. Et donc, ce Saint-Louis, le patronage de Saint-Louis, pour ceux qui savent un petit peu, moi j'étais favorable pour que la paroisse s'appelle Saint-Louis et Zélie Martin, parce que je voulais des saints laïcs qui donnent envie de devenir saints. Et Saint-Louis et Zélie Martin sont plus proches de nous historiquement, ils sont canonisés récemment, ils sont canonisés en couple en plus, donc ça interpelle davantage. Mais la Providence, on a voulu autrement, hein, c'est notre évêque qui a été l'artisan de la Providence. Providence, on a voulu autrement, et finalement, c'est le roi Saint-Louis qui a pris le dessus et qui est devenu le saint patron de la paroisse. C'est pas grave, c'est aussi un saint laïc, mais seulement, comme c'est un roi, tout le monde dit « Ah ben oui, mais il est saint parce qu'il est roi ». Mais non, il n'est pas saint parce qu'il est roi. Il est saint parce qu'il est saint, parce qu'il a vécu saintement. Ah pardon. Oui, j'ai oublié, les enfants sont invités à aller avec le père Para pour justement découvrir la vie de Saint-Louis. Voilà. Ils vont vous caler après, ils vont... Alors, les enfants, vous pouvez aller dans la chapelle de la Vierge. Désolé, hein. Je voulais tellement pas louper mon homélie que... Alors maintenant, c'est loupé. Ah ben voilà, déjà la moitié de l'assemblée en moins. Alors, donc Saint-Louis, roi de France, donc tout le monde pense, enfin facilement, on a tendance à penser qu'il est saint parce qu'il est roi, or ce n'est pas le cas. Il est saint parce qu'il a vécu une vie sainte, et c'était un baptisé, comme nous, baptisé, confirmé, j'espère que tout le monde est confirmé. Ceux qui ne sont pas confirmés, vous n'hésiterez pas à vous manifester, car il faut que vous demandiez la confirmation rapidement. Et puis, il essayait de vivre sa vie chrétienne. Il allait à la messe, non seulement le dimanche, mais tous les jours. Puis à l'époque, l'adoration eucharistique n'existait pas. Vous savez comment il faisait à l'époque? Il assistait à plusieurs messes dans la journée. Voilà, c'était l'autre manière d'adorer, parce que l'eucharistie est un acte d'adoration. Mais voilà, maintenant nous avons l'adoration eucharistique, donc c'est encore plus facile. Voilà, en tout cas, Saint-Louis, c'est d'abord un laïc qui est devenu saint, quelqu'un qui a pris au sérieux sa vocation, sa vie de chrétien, sa vocation chrétienne, et qui a essayé de la pratiquer. Alors, je ne vais pas reprendre la vie de Saint-Louis, hein, les enfants vous la raconteront après, mais je veux simplement souligner quelques aspects. Vous avez entendu l'évangile, c'est l'évangile de la messe de Saint-Louis, et donc l'évangile que l'Église nous propose pour la messe de Saint-Louis, c'est l'évangile où Jésus résume tous les commandements du Seigneur. Tous les commandements, donc, ils se résument en aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et aimer notre prochain. Et c'est le même commandement. Saint-Louis a vraiment vécu ça dans sa vie. Hein, Dieu, et c'est très important de se souvenir de cela, c'est que ce n'est pas parce qu'on est laïque, on a une vie professionnelle, on a des engagements, parfois associatif, on est souvent marié, on a charge de famille, voilà, que d'un seul coup, Dieu n'est plus le premier servi. Certes, en servant mon conjoint, en servant mes enfants, c'est je fais mon devoir d'État et je fais ce que Dieu attend de moi. Cependant, il ne faut pas le faire n'importe comment, comme les païens le feraient, qui s'occupent aussi de leur famille. Il faut le faire de façon chrétienne, et Saint-Louis est un bel exemple pour nous, puisque Saint-Louis va toujours demander à Dieu de l'inspirer, de le guider. Il va prendre le temps de la prière. Il énervait même son entourage, il énervait même les prêtres et les moines qui étaient avec lui, parce qu'il emmenait toujours des prêtres et moines en son déplacement, pour qu'il y ait les offices qui se disent partout où il était. Il y avait les offices des heures qui étaient célébrés, les messes célébrées, etc. Et il s'agaçait parce qu'il trouvait qu'il en demandait trop. Même les prêtres trouvaient que c'était trop. Mais il avait ce souci d'avoir une vie de prière. Nous devons l'avoir évidemment différemment de lui, mais il avait ce souci de la prière, Dieu, premier aimé, premier servi. Et c'est ainsi qu'on met notre confiance en Dieu. Celui qui ne prie pas ne peut pas réellement mettre sa confiance en Dieu. Il va s'inquiéter, il va se tourner vers Dieu quand ça ne va pas, mais j'allais dire c'est trop tard. C'est pas vraiment vrai, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une vraie relation, on ne cherche pas la relation à Dieu, eh bien, ne soyons pas étonnés qu'au moment où il y en a plus besoin, eh bien, nous ne vivions pas, nous ne ressentions pas cette relation à Dieu. Donc, Saint Louis prie, est un homme de prière. Saint Louis est un homme qui a souci de ses frères, et particulièrement des plus faibles. Lui, qui avait la position la plus élevée du royaume, eh bien, il agaçait aussi parce qu'il distribuait beaucoup d'argent aux pauvres qu'il croisait sur sa route, et au lieu de faire des banquets. Et ça agaçait, et il disait, moi je préfère donner mon argent aux pauvres plutôt que le dépenser dans les banquets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir faire la fête, mais voilà, il donnait une certaine priorité aux pauvres. Il avait aussi cette habitude d'inviter les pauvres à sa table. Et même plus que cela, non seulement il les invitait, mais une fois par an il leur lavait les pieds et il les servait personnellement. C'est lui qui servait le repas, il ne mangeait pas, il servait le repas aux pauvres. Il était aimé et reconnu comme saint de son vivant à cause de sa manière de vivre. Il avait un vrai souci de l'évangélisation de son royaume. Grâce à lui, beaucoup de monastères ont été construits en France. Il avait aussi un souci de la paix et de l'unité. Il est connu pour ses jugements qu'il essaiera de poser de façon la plus juste possible. Et donc, il est connu pour ses jugements qu'il essaiera de poser le plus justement possible, mais il cherchera toujours la paix. Il n'empêche que parfois, il devra faire la guerre en tant que roi. Mais, d'ailleurs, dans notre région, il va devoir, je ne sais plus bien ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est passé en Vendée à cause de cela, puisqu'il devra faire la guerre dans la région, et ensuite, il ira remercier le Seigneur dans plusieurs églises, dont l'église de Vouvant. Pour ceux qui est toujours debout, il viendra pour une messe à Vouvant. Voilà, toujours est-il qu'il y avait souci de la paix et de l'unité, c'était sa préoccupation. Il va aussi réformer le pays. Bon, alors tout cela, pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'en fait, pour notre paroisse, c'est notre saint patron, mais aussi parce qu'il nous montre un petit peu ce que nous devons susciter au sein de la paroisse. D'une part, la paroisse est là pour nous aider à aimer Dieu, pour nous aider à le servir, pour nous aider à favoriser la ferveur dans notre prière. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de propositions. Moi, je donne l'accent beaucoup sur l'adoration eucharistique, qui est un vrai cadeau de Dieu, mais ne passons pas à côté de ce cadeau que nous vivons. Il y a beaucoup de lieux, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez d'adorateurs, et je pense qu'il en manque encore, je n'ai pas vérifié, mais... ceux qui ne sont pas inscrits, n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà. Il favorisait la ferveur, la prière. Mettez de la prière dans votre vie, et donc la paroisse est là pour vous y aider. La paroisse est là aussi pour nous aider à nous mettre au service de nos frères. Il y a nos frères les plus pauvres, il y a un certain nombre de propositions aussi qui sont faites, mais il y a aussi nos frères, ceux qui sont à côté de nous. Faisons très attention dans nos relations fraternelles, dans nos relations paroissiales, de ne pas être simplement entre ceux qui se connaissent. Il faut vraiment que nous ayons des amis dans notre paroisse qui sont liés à notre foi à Jésus. Nous les rencontrons, nous allons vers eux parce qu'ils font partie de la même communauté, parce que Jésus est notre foi commune, et non pas parce que nous les avons croisés à l'école ou nous les avons croisés supermarché, ça peut marcher encore. Parce que supermarché, on croise tout le monde. Mais nous avons des relations sociales, même milieux sociaux, etc. Non, il nous faut être vigilants à cela, à aller vers ceux qui ne sont pas de notre environnement et ceux donc, qui sont pauvres et aussi ceux de nos frères dans la communauté qui sont différents. Et puis la paroisse est aussi là pour nous aider à annoncer l'Évangile. Voilà. Mais qu'est-ce qu'une paroisse profondément ? Une paroisse, c'est d'abord, ce n'est pas un territoire. Vous savez que la paroisse actuellement est quand même très grande maintenant. Et surtout, elle est grande au niveau nombre d'habitants, puisqu'on est entre la paroisse entre 40 et 50 000 habitants désormais. Autant dire qu'on peut évangéliser sans craindre d'épuiser le vivier, parce que là, il y a du monde à rencontrer. Le nombre des pratiquants, j'ose pas le calculer, parce que j'ai craint que le différentiel entre les pratiquants et le nombre d'habitants sur la paroisse soit énorme. Mais la paroisse, c'est pas d'abord un territoire. La paroisse, même si le territoire est nécessaire, la paroisse, c'est une communauté. Et une communauté dont Jésus est le centre. Une vie fraternelle dont Jésus nous unit. Hein, c'est lui qui doit être le centre. On ne peut pas croire qu'une communauté paroissiale peut se vivre comme ça, comme une association. C'est vraiment une communauté dont on choisit, qu'on choisit de construire. Donc, dans une paroisse, il faut à la fois d'un côté que Jésus soit vraiment central, comme Saint Louis a pu le faire dans sa vie, comme nous devons le faire dans notre vie, où Jésus est toujours le premier servi, le premier aimé, où nous souhaitons tout remettre entre ses mains, parce que c'est au cœur de notre foi, donc centré vraiment sur le Christ, mais en même temps, qui construit cet amour commun, construit une véritable fraternité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis, dit Jésus. C'est très important de réaliser cela. Dans notre pays de vieille chrétienté, on a tendance à considérer la paroisse comme étant une réalité qui nous rassemble socialement parce que voilà, c'est une coutume. Alors on a la foi, hein, vous êtes là parce que vous avez la foi, évidemment, il y en a tellement qui ne vont plus à la messe. Mais quand même de l'envisager, la communauté chrétienne, la communauté paroissiale, comme une sorte de réalité pas si communautaire que ça finalement. Communauté un peu sociologique, comme les sociologues vont faire des études sur les catholiques pratiquants. Voilà, un truc, une réalité comme ça. Mais finalement, les gens, ils vont à la messe, puis en dehors de ça, ils demandent un certain nombre de services, mais en dehors de ça, il ne se passe rien de plus. Or, la paroisse n'est pas ça, c'est une communauté. Et le pape François dira que les paroisses sont des communautés de communautés. Nous sommes une grande communauté, mais nous sommes nombreux tout de même, hein, heureusement. Et il nous faut subdiviser notre paroisse en petites communautés. C'est pour ça qu'il y a des pôles paroissiaux dans la paroisse. Et donc j'ai pas fini l'homélie. Donc il faut des pôles et il y a grosso modo trois pôles sur la paroisse, hein, ici le pôle de Saint-Florent-des-Bois et le pôle de la chaise du vicomte, auquel il faut rajouter le pôle de ceux qui sont attachés à la messe en forme extraordinaire. Voilà, donc ça fait quatre pôles sur la paroisse, qui sont des pôles communautaires. Mais même ici, vous voyez bien qu'on est trop nombreux pour faire vraiment une vie fraternelle consistante. Et donc, il faut subdiviser encore en petites communautés. Et c'est ainsi que c'est pour cela qu'on propose dans la paroisse, y compris donc à la campagne, on propose des petites communautés fraternelles. Et on a lancé l'année dernière, grâce au Père Grégoire, le chemin intégral de nouvelle évangélisation, le CINÉ, et on souhaite le poursuivre cette année pour former des petites communautés locales qui sont des communautés qui se rassemblent au nom de Jésus, qui louent Jésus, qui partagent et qui agissent et évangélisent au nom de Jésus et par leur amour mutuel. Par leur amour mutuel. Fuyons l'isolement. Voilà. Et essayons de vivre cette dimension paroissiale, des fraternités, des communautés paroissiales. C'est très important. Donc il y a vraiment deux axes que je vous propose pour la paroisse. La première, c'est mettre Jésus au centre, personnellement, dans notre prière personnelle, grâce à l'adoration eucharistique aussi, grâce à la Vierge Marie. Et puis l'autre aspect, c'est former des communautés paroissiales et tous ceux que je vous encourage vraiment à vous inscrire à ce parcours ciné pour entrer dans ces fraternités qui, elles, certainement, il est certain, seront des ferments d'évangélisation. Je vais terminer, parce que j'ai déjà été long, je termine simplement en évoquant brièvement la deuxième lecture. Vous avez la deuxième lecture, parle des pasteurs. Saint Paul parle de lui-même, il dit qu'il a été un pécheur, mais que finalement Dieu l'a appelé, l'a repêché, etc. Je tiens à souligner quelque chose qui me semble important, c'est que vos pasteurs, donc Saint Paul en parlant de cela, il parle des pasteurs, vos pasteurs se reconnaissent dans le texte que vous avez entendu de Saint Paul. S'ils sont pasteurs, c'est qu'ils sont pauvres, qu'ils ont été péchés par Dieu dans sa miséricorde et n'ont aucun mérite. Ils sont toujours imparfaits, ils cherchent à servir le Seigneur, mais ils le font très imparfaitement. Donc je vous invite à prier pour vos pasteurs et en même temps à être patient envers eux. Ne demandez pas qu'ils soient parfaits tout de suite. Ça viendra. Au ciel. Au ciel. Ici-bas, il faut supporter des pasteurs imparfaits. Donc, priez pour eux, aidez-nous à cheminer. Voilà. En résumé, trois mots pour l'orientation de notre paroisse, la ferveur, la charité fraternelle et la charité envers nos frères les plus pauvres, et l'évangélisation. Amen.